Bienvenue à bord.
Bonjour à toutes et à tous. Vincent Guignot est historien et spécialiste des phares. Il est notre invité dans ce magazine pour nous parler des phares dans le monde qui ont chacun leur histoire et leur particularité architecturale. Pas facile à sélectionner pour son livre.
Il a fallu en choisir 80, c'était pas évident puisqu'il y en a 20 000. Et puis d'habitude, quand tu regardes un livre consacré aux phares de France, t'en as déjà plus de 100. Donc la question a été celui du choix.
Reportage sur le Tara de retour dans son port d'attache. Le navire d'exploration revient de 7 mois de mission consacrée à la pollution par les microplastiques.
On veut savoir quel est l'impact de la ville sur la pollution plastique. Et puis après, comment ça se disperse dans le fleuve et comment ça arrive en mer et comment ça se disperse aussi en mer.
Gwendal Jaffry, vous allez nous raconter l'histoire étonnante de la construction du canal de la Mer Blanche en Russie.
1931-1933, quand les détenus du goulag creusaient un canal.
Et Jean-Michel Guénier, nous allons parler avec vous de l'histoire du Salon Nautique de Paris.
Et oui Jérôme, 60 ans de Salon Nautique à Paris, et je dirais même presque plus de 60 ans si l'on considère les premiers Salons Nautiques au Grand Palais, et puis ensuite au bord de la Seine, et puis le CNIT, et maintenant la Porte de Versailles.
A tout à l'heure messieurs.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
De l'Islande au Japon, en passant par l'Australie ou la Chine, c'est un tour du monde des phares que nous propose Vincent Guignot dans son livre. Nous allons vous en présenter quelques-uns dans ce magazine. Mais on commence par les motivations qui l'ont poussé à choisir ce thème.
C'était la volonté d'aller voir des horizons qu'on connaît moins. Quand on regarde la production de beaux livres sur les phares, elle est quand même très concentrée sur nos métropoles, notre métropole, sur notre littoral, sur les phares en mer. Or, des phares, il y en a 20 000 dans le monde. On n'est pas très sûr du chiffre. Donc, ça veut dire que certains sont dans des paysages, ont des histoires qu'on connaît moins ou pas. C'est aussi un livre de voyage autant qu'un livre de phares. C'est soit des voyages que j'ai pu faire, soit des voyages que j'aimerais faire. Ça justifiait, en tout cas, aux yeux d'un éditeur, qu'on se lance dans ce projet de livre.
Ce phare russe avec la photo en gros plan du gardien. Quel air triste, on dirait Droupi, le pauvre gardien.
Oui, alors ça, c'est fait partie des bonnes surprises. Là, je me suis plongé dans un océan d'images que je ne connaissais pas. Et là, je tombe sur un reportage de l'agence TASS sur l'ensemble des phares de ce qu'on pourrait appeler l'extrême Occident ou l'extrême Orient russe. Et ces photos extraordinaires de ce gardien qui a l'air triste, qui est là avec son phare un peu délabré. Et à l'intérieur, on découvre que c'est une optique française qui a été montée au bout du monde. Donc c'est, finalement, dans les phares, c'est toujours où est-ce qu'on est. On est à la fois dans un lieu qui a sa propre histoire, et puis tout à coup, cette histoire, ce lieu, il est connecté avec l'usine qui, à Paris, a construit une optique qu'on a expédiée comme ça au bout du monde.
À propos d'usine à Paris, il y a au 19e siècle une période où on construisait des phares à Paris. Il faut nous raconter ça, Vincent.
Oui, le phare dans la dernier tiers du 19e siècle devient un objet industriel à travers à la fois les optiques dont la France a un quasi-monopole. Ils ont un grand concurrent anglais qui s'appelle Chance Brothers, mais ce sont des usines ou des entrepreneurs parisiens qui Sauterre, BBT, Le Pôtre, qui vendent au monde entier. Donc on n'est jamais à l'abri quand on se promène sur un littoral très éloigné de tomber sur un phare français. Et puis aussi, on fabriquait des phares métalliques en kit. Là, il y en a quelques-uns dans le livre, dont certains, je sais pas, à Panama, au Brésil, en Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est un objet qu'on exportait, du préfabriqué, et ça a permis de construire très très rapidement énormément de phares à la fin du 19e siècle.
Certains étaient d'ailleurs, de ces phares étaient faits en série en fait.
Oui, on pouvait les acheter sur catalogue. C'était présenté lors des expositions universelles, où il y avait des stands, des constructeurs. On pouvait faire son marché et acheter son phare, comme l'a fait le Brésil, par exemple, a été un acquéreur. L'Estonie, enfin à l'époque c'était la Russie, au printemps prochain, va réouvrir un phare qui a été conçu par Gustave Eiffel. Il n'en a pas fait beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Voilà, c'est une histoire mondiale, les phares, à travers les gens qui les ont construits, les matériaux qui circulent, une technologie qu'on a été imposée partout dans le monde. C'était aussi un des vecteurs de ce livre. On connaît les phares des métropoles, moins les phares des colonies. Or, la France, le Royaume-Uni, le Portugal, le Japon sont des pays qui ont eu des empires et le phare est un objet de l'empire. Partout où on arrive, on commence par construire, à faire des cartes et à construire des phares, pour après mettre en place l'extorsion, l'extraction des ressources coloniales.
Arcade Fire avec The Well and the Lighthouse, le choix musical de notre invité que l'on retrouve dans un instant. Ça sera juste après Gwendal Jaffry, le rédacteur en chef du Chasse-Marée, la revue de la culture et du patrimoine maritime, qui va maintenant nous parler du canal de la Mer Blanche.
Bienvenue à bord.
Le canal de la Mer Blanche, ce n'est pas le plus connu des canaux, Suez, Panama, voire chez nous, le canal de Nantes à Brest par exemple. Et pourtant, quelle histoire! On va commencer en revenant un tout petit peu en arrière avec un célèbre tableau, Les Haleurs de la Volga. Peinture d'Ilia Répine, 1870, où on voit des haleurs justement qui tirent sur un bateau pour le faire avancer, ce qui se pratiquait beaucoup par le passé, mais qui plus récemment, enfin il y a un siècle, a permis aux communistes de montrer, d'en faire le symbole des tristes conditions de vie des serfs à l'époque des tsars. Revenons à notre canal. 1702, Pierre le Grand, on est en guerre Russie-Suède pour le contrôle de la Baltique. Pierre le Grand fait construire deux frégates à Arkhangelsk. Sauf que ces deux frégates, il faut les faire venir jusqu'à la Baltique, notamment en les tirant sur la terre, et c'est extrêmement compliqué. D'où l'idée, un jour, de construire un canal. Sauf que ça ne va pas se faire, bien que les décennies suivantes, on continue régulièrement à y penser parce que ce canal serait intéressant pour ne plus avoir à contourner la Scandinavie pour rejoindre justement ces deux parties de la Russie. Finalement, c'est Staline qui va concrétiser cette idée de canal. 1930, ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir. Enfin, il va mettre ce canal en chantier. Enfin, façon de parler bien entendu. Alors il faut savoir que la Baltique, elle est déjà reliée au lac Ladoga par la Neva, puis au lac Onega par la Svir. Donc il faut creuser jusqu'à un lac qui s'appelle Vig, puis jusqu'à la mer Blanche pour rejoindre les eaux du Grand Nord. En tout, 47 km de voies artificielles. Les travaux débutent en septembre 1931 avec, comme ouvriers, les détenus du Slone, qui est un camp de redressement par le travail, où on trouve des détenus politiques, des minorités ethniques, mais également tous les petits propriétaires qui sont très réticents au collectivisme. 170 000 hommes vont être utilisés pour construire ce canal. 20 mois de chantier environ. On travaille dans des marécages. On travaille parfois par moins 30 degrés. C'est extrêmement difficile. 21 millions de mètres cubes de terre sont retournés. 10 millions de mètres cubes de bois sont utilisés. 2,5 millions de mètres cubes de pierre. Et accrochez-vous bien, 4,5 millions d'explosions sont nécessaires pour creuser le canal. Au final, 25 000 morts. Un canal construit très vite, on le disait, en 20 mois, Pour mémoire, Suez, il a fallu 10 ans, 160 km, Panama, 28 ans, 80 km. Le canal est ouvert le 2 août 1933, il va finalement peu servir. Quant à ses ouvriers, où est-ce qu'on les envoie ? Creuser un autre canal, cette fois-ci Moscou-Volga. Aujourd'hui, un canal de la mer Blanche qu'on peut toujours utiliser en plaisance, même si c'est très, très compliqué.
Bienvenue à bord, le magazine de la mer.
Nous continuons de parler des phares dans le monde avec notre invité Vincent Guignot, auteur d'un livre sur le sujet. Parmi les phares remarquables qui sont présentés, il y a celui de Gardafui qui se trouve à la pointe est de l'Afrique.
Il a une tête pas possible puisque ça ressemble à un faisceau de licteurs romains. Il a été construit par les Italiens qui avaient colonisé cette côte somalienne dans l'entre-deux-guerres. Et c'est une histoire intéressante, phare qu'on veut construire depuis la fin du 19e, parce qu'on est donc à la sortie de la mer Rouge. En gros, si tu mets le clignotant à gauche, tu vas vers l'Inde, l'Extrême-Orient. Tu mets le clignotant à droite, tu redescends sur la côte est de l'Afrique. Donc c'est un endroit où il y a des naufrages. Et ça se chamaille entre Français, Anglais, pour construire un phare. Il y a toute une correspondance dans les archives anglaises, à Kew, donc dans les archives du Foreign Office, où on dit qu'il faudrait quand même que quelqu'un construise et plouf plouf, qui et comment on va garder un phare pareil. Parce que on voit déjà qu'à cette époque, le fantasme du pirate somalien existe déjà chez les Occidentaux. Et c'est les Italiens qui vont dire, nous on va y aller, on va le construire. Non seulement, alors ils construisent un premier phare, et puis le deuxième, ils lui donnent cette forme architecturale tout à fait étonnante. Donc voilà, ça illustre un peu le genre d'histoire que je cherchais à raconter. C'est des phares qui sont quand même tout à fait étonnants, non seulement par leur architecture, mais par la conjoncture.
Mais le côté humain, pas seulement architectural.
Oui, et puis ça s'est terminé avec un Italien qu'on a oublié quasiment là, qui était devenu le prince de Gardafui.
Parmi les 80 phares, il y en a un que tu as choisi pour la couverture, c'est le phare des éclaireurs. Il est où ce phare ?
Pas loin du Cap Horn, ça fait partie de ces voies qui permettent de passer du Pacifique à l'Atlantique. Ce sont des marins français d'un bateau qui s'appelle la Romanche, qui menait une expédition scientifique à la fin du 19e siècle dans cette zone. Expédition totale, on a fait de l'hydrographie, de l'ethnologie, de la botanique. Et donc la Romanche est passée là, et les Français ont dessiné une carte et ont nommé des cailloux. Et donc ils ont appelé ce caillou les éclaireurs. Et le phare donc, a pris, comme c'est un peu l'usage, le même nom.
Alors celui des éclaireurs, il est tout au sud. Il y en a aussi qui est bien dans le nord, c'est le phare qui est en Alaska, à l'endroit où il y avait les chercheurs d'or.
Eldred Rock, oui. Alors ça fait partie des phares. En fait, je écrivais très tôt et je regardais sur mon frigo, j'ai des cartes postales qu'on m'envoie de quatre coins du monde, avec ou sans phare, mais de lieux qui ont l'air extraordinaires. Et l'Alaska, il fallait trouver un phare qui permette de raconter cette zone étonnante. Et l'icône des phares de l'Alaska, c'est Eldred Rock. Et puis effectivement, on ne comprend pas l'histoire de ce phare si on ne va pas chercher du côté de la ruée vers l'or. Alors comme d'habitude, une fois quand le phare a été construit, la ruée était déjà terminée. Souvent, on a un petit temps de décalage. Et aujourd'hui, c'est cette zone vit dans la mémoire de cette ruée. Et voilà, le phare.
Il y a un côté littéraire étonnant aussi, puisque parmi les chercheurs d'or, il y avait Jack London, qui avait 20 ans à l'époque où il est passé à cet endroit.
Tout à fait.
Le tour du monde en 80 phares par Vincent Guignot, c'est aux éditions EPA. Entretien réalisé par Michel Pagès.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
C'est la grosse saison pour les ostréiculteurs à l'approche des fêtes, mais ils peinent à recruter en cette période un peu partout sur le littoral français. Exemple en Bretagne avec ce reportage de Sixtine Lys.
Yvon Madec, ostréiculteur à Lannilis dans le Nord Finistère, se rappelle avec nostalgie ses débuts.
Quand j'étais beaucoup plus jeune, on avait la queue pour venir faire la saison des huîtres. Maintenant, c'est l'inverse. Hein. On dirait qu'on a mis des annonces. Aucune réponse. Donc, il y a quand même un malaise.
Plus les années passent et plus c'est difficile de trouver du monde. Pour Yvon, le problème, c'est le système.
C'est plus dur, c'est comme tous les métiers, hein, tout le monde peine à embaucher. Tant que les gens peuvent rester à la maison et gagner autant, donc c'est un peu le système qui est à mettre en cause.
Hein. Renan Henry est ostréiculteur à Saint-Philibert dans le Morbihan. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, cette année, il a reçu beaucoup de candidatures. mais c'était presque trop beau pour être vrai.
La semaine dernière, sur les 6 qui ont démarré, il y en a 2 qui ont fait une journée et 2 autres qui ont fait 2 journées seulement. Donc, heureusement qu'il y a du monde à chercher du travail, quoi.
Mais les 2 professionnels ne s'inquiètent pas. Outre mesure, entre les candidatures spontanées et les agences d'intérim, ils finissent toujours par trouver.
Moi, ça fait 45 fêtes que j'ai fait, ou 50 ans que je m'affole pas. Ça va le faire.
On l'espère en tout cas. Avec Jean-Michel Gagné, nous allons parler du Salon Nautique de Paris.
Bienvenue à bord.
Jean-Michel, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Et on va s'intéresser à son histoire.
Et oui, je dirais 60 ans de Salon Nautique à Paris. Alors, le traditionnel Salon Nautique de Paris, il ouvre samedi prochain pour une semaine. Un rendez-vous que tous les passionnés de bateaux, d'ailleurs sous toutes ses formes, ne veulent pas manquer. Et il se tient, comme chaque année, à la Porte de Versailles, au Parc des Expositions de la ville de Paris. Mais en fait, il n'en a pas toujours été ainsi. À l'époque où la plaisance était réservée à une petite élite, je veux parler du début du XXe siècle, dans les années 1920, le Salon Nautique avait lieu sous les voûtes du Grand Palais et alors il partageait son espace avec des automobiles. Puis ensuite il a migré sur les berges de la Seine et ce jusqu'à la fin des années 50. C'est en 1962 en fait que débute le premier Salon Nautique de l'ère moderne avec son déménagement au CNIT. Alors ce grand bâtiment futuriste en béton du quartier de la Défense sortait à peine de terre et pourtant ce fut à l'époque une vraie révolution que de pouvoir exposer des bateaux sous ses voûtes. La hauteur de la nef centrale permettait alors d'exposer des voiliers matés tandis que les exposeurs de matériel occupaient les coursifs sur plusieurs niveaux. Le Salon Nautique d'alors était d'ailleurs le reflet du développement de la plaisance, avec une surface occupée chaque année plus importante et un nombre de visiteurs pratiquement multiplié par 10 en 25 ans pour atteindre près de 300 000 visiteurs dans les années 90. Car 1988 marque un nouveau tournant dans la vie du Salon Nautique, c'est cette fois le transfert du salon du CNIT vers la Porte de Versailles. Une surface d'exposition qui passe alors de 85 000 m² à 150 000 m² et atteint même 170 000 m² en 2008. Mais depuis, la crise est passée par là et tous les salons nautiques du monde ont souffert. La concurrence des nouveaux modes de communication accentuant encore le phénomène. Mais le Nautique de Paris totalise encore 130 000 m² d'exposition, plus de 1000 bateaux exposés et environ 200 000 visiteurs chaque année. Il vous attend donc la semaine prochaine, du 7 au 15 novembre, de 10h à 19h, avec une soirée nocturne le vendredi 13 jusqu'à 22h. Et si c'est le vendredi 13, on a peut-être une chance d'y trouver son bonheur. Les billets plein tarif sont au prix de 17€, mais si vous êtes licencié d'une fédération sportive, Fédération Française de Voile, Motonautisme, Surf, etc., c'est gratuit, de même que si vous êtes un nouveau titulaire du permis bateau. Alors, bonne visite au salon et pour en savoir plus, je vous invite à aller sur le site du Salon Nautique de Paris, www.salonnautiqueparis.com.
Merci Jean-Michel, on vous retrouve dans un instant, vous allez nous présenter un navigateur.
France Bleu, bienvenue à bord.
Le navire d'exploration Tara est de retour depuis quelques jours dans son port d'attache à Lorient, après 7 mois d'expédition consacrée à la pollution des microplastiques. Une 40aine de chercheurs ont participé à cette étude, réalisée dans 9 fleuves européens, le dernier ayant été la Loire. Anne Patinec était présente pour cette dernière mission.
Sur le pont du voilier, les scientifiques de Tara ont installé une table et posé leur bidon rempli des échantillons d'eau qu'ils ont prélevés le matin au niveau de Indre à l'aide d'un filet accroché à l'arrière de leur semi-rigide. Gaëtan Burgot est chercheur à l'université de Brest. Pince à épiler en main, il s'attelle à une tâche minutieuse.
Là, on voit qu'il y a pas mal de débris végétaux et donc on va séparer les débris végétaux des microplastiques et c'est les microplastiques qui vont nous intéresser. Là, pour l'instant, on voit pas grand-chose. Ça a pas l'air très très chargé. Bon, ça veut pas dire qu'il y en a pas. Il va falloir analyser tout ça plus en détail. Là, on en voit un, par exemple. Vous voyez, une petite particule bleue, là. Ça, c'est du plastique.
Selon un protocole établi, sur chaque fleuve, les prélèvements sont effectués en 5 endroits, notamment en amont et en aval de la grande ville. Nantes pour la Loire, précise Valérie Barbe, chercheuse au Génoscope.
On veut savoir quel est l'impact de la ville sur la pollution plastique. Et puis après, comment ça se disperse dans le fleuve et comment ça arrive en mer et comment ça se disperse aussi en mer.
Ces échantillons vont être examinés dans des laboratoires par des chercheurs de différentes disciplines. Cela permettra notamment de savoir quel est le fleuve le plus pollué par les microplastiques, de connaître l'origine de ces polluants invisibles que l'on retrouve ensuite en mer et les impacts sur la biodiversité.
On les voit dans les fleuves. D'où viennent-ils? Est-ce qu'ils proviennent des industries, de notre consommation? Grâce à cette mission, on va pouvoir commencer à apporter un certain nombre de réponses.
Les résultats de l'étude devraient être publiés d'ici 2 ans.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Pour terminer ce magazine, Jean-Michel Guignet, vous nous présentez un navigateur, en l'occurrence Alain Glicksman.
Et oui, Jérôme, Alain Glicksman, ancien journaliste et rédacteur en chef de magazine nautique, Alain Glicksman, né en 1932, a été l'un des skippers les plus en vue dans les années 70-90. Transat en solitaire, course autour du monde, probablement le plus inattendu des skippers de sa génération, n'hésitant pas à traverser l'Atlantique sur un Toucan, un petit bateau conçu pour le lac Léman, ou à bord du premier prao de course au large, inspiré des embarcations polynésiennes. Il est aussi l'auteur, Alain Glicksman, de très nombreux livres de navigation, comme Au large, considéré pendant longtemps comme une sorte de bible de la navigation.
Merci Jean-Michel Guignet. C'est la fin de ce magazine que vous pouvez retrouver sur francebleu.fr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bienvenue à bord. À très bientôt, au revoir.